Oh Dieu, nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien comprendre, rien saisir de ta parole. C'est pourquoi nous te demandons que ce grand consolateur que tu nous as donné pendant l'absence de ton Fils bien-aimé soit vraiment libre au milieu de nous. Car tu nous dis que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a aussi la liberté. Et que nous puissions nous sentir vraiment dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et que ta grâce nous soit donnée, que tu nous inspires et que tu nous conduises dans la façon dont nous avons à passer cette heure de cet après-midi pour que vraiment tu puisses répondre à nos besoins et que nous puissions continuer de rechercher quel est vraiment ce problème de l'heure, ce véritable problème, mais aussi sa solution, la réponse dont nous avons tant besoin pour vivre à la gloire de notre Créateur qui est devenu notre Père et dont nous sommes les enfants bien-aimés, que nous en prenions conscience en ce moment, et que cette relation devienne une réalité pour chacune de nos vies. En Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés déjà à cet après-midi du 6 décembre, dans cette retraite, dont le thème est le vrai problème de l'heure. Et tout à l'heure, quelqu'un m'a fait part de sa crainte que je ne continue pas de traiter ce sujet et que je me borne simplement à répondre à des questions qui peuvent se poser à l'esprit de l'un ou de l'autre d'entre vous sur cet épître de Jean. C'est toujours difficile de satisfaire les désirs de chacun, mais j'ai exposé ce besoin au Seigneur et il m'a montré que je devais essayer de faire les deux choses. Alors, ce matin, nous avons terminé en quelque sorte en nous souvenons de cette parole de l'apôtre Paul devant les voix insondables et les pensées de Dieu quand il s'écrit, et je relis ce texte de Romains chapitre 11, après avoir considéré les voies de Dieu à l'égard de ce peuple d'Israël, il s'écrit en profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles, et il s'écrit Amen. Et nous vous disions, en finale, qu'au fond, le vrai problème de l'heure, c'était la méconnaissance dans laquelle nous sommes du conseil divin. Je ne dis pas des pensées de Dieu, mais du conseil divin, de l'intention suprême de Dieu à l'égard de chacune de nos vies. Il faut absolument qu'individuellement nous comprenions quel est le conseil divin, son décret pour chacune de nos vies. Quelle est l'intention de Dieu pour nous? Et je pensais à ce que Robert Kennedy a dit un jour,
il a écrit que le problème des jeunes aux États-Unis était qu'on leur offrait tout ce qui est imaginable, sauf la réponse à la question la plus importante. Et il ajoutait que cette question la plus importante que devraient connaître les jeunes, pourquoi donc est-ce que je vis? C'est vrai. Vous savez que Robert Kennedy a été assassiné, comme du reste son frère John. Mais c'était des hommes qui pensaient, et c'était des croyants. Et quand on est croyant, on réfléchit, et quand on est ministre de la Justice, comme l'a été Robert Kennedy, eh bien, on est préoccupé de cette question des jeunes. On a tout donné dans nos pays capitalistes à la jeunesse, tout ce qui est imaginable. Les jeunes le possèdent. Pensez un petit peu à ce que vous aviez, vous les plus âgés, autrefois. Et au bonheur que c'était, je me souviens même, une orange dans ma jeunesse. C'était à Noël. Et le prix qu'avait une orange pour nous, or aujourd'hui, on peut avoir des oranges tous les jours. De sorte que le jeune n'apprécie plus rien, tout est là. Au fond, on a tout donné à nos jeunes, sauf la réponse, dit Kennedy, à la question la plus importante, pourquoi donc est-ce que je vis? Et je dirais ici que nous trouvons en Jésus seul l'ultime motivation de la vie, de la souffrance et de la mort. C'est une grande question qui se pose à nous. Elles trouvent leur réponse en Jésus-Christ. Et c'est vrai ce que Pierre disait. Il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a pas d'autre réponse à donner et que Jésus-Christ. Mais pas n'importe quel Jésus, ce Jésus qu'on met maintenant à toutes les sauces, mais le Jésus des Écritures, le Jésus qui n'a fait que de nous parler de qui? De son Père, et qui nous a révélé le Père, et en même temps la vie que le Père voulait pour un homme. Car en Jésus, vous pouvez voir ce que Dieu voulait en créant un homme à son image et à sa ressemblance. C'est à un Adam que vous apprenez à connaître le dessein de Dieu pour l'homme. C'est uniquement dans le second Adam, qui est Jésus-Christ. Le dernier Adam, car il ne faut pas vous imaginer qu'il y en a un autre que vous pourriez attendre. C'était ce que Jean-Baptiste posait comme question à Jésus. Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus, dans une de ces paraboles, nous a dit que le Père a envoyé son fils, après avoir envoyé plusieurs serviteurs, il a envoyé son fils le dernier. Donc, Jésus-Christ est le dernier mot de Dieu à l'humanité. C'est lui le seul sauveur, et c'est en lui seul que se trouve la réponse à nos problèmes et à nos questions. non seulement Jésus, en venant dans ce monde, nous a montré le chemin que nous devrions suivre. Il a été lui-même le chemin. Il nous montre le chemin, mais il est le chemin. Et non seulement il nous montre le chemin, mais on peut dire qu'il nous accompagne aussi dans le chemin. Il est avec nous, et mieux encore, il est en nous. C'est quelque chose de merveilleux. Il est avec nous et il est en nous. Il est la cause de notre joie. Il est la cause de notre paix. Il est la cause de notre espérance. Sans Jésus, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. C'est vrai. En dehors de cette rencontre personnelle avec Jésus, on ne se connaît pas soi-même. Vous pouvez vous regarder dans une glace, dans un miroir, et penser que vous vous connaissez bien. Non. Vous pouvez vous comparer aux autres et en déduire que vous n'êtes pas si mal que ça. On ne se connaît que lorsqu'on entre dans la présence de Jésus. Alors, on se sent réellement dévoilé, comme l'apôtre Pierre, avant qu'il soit apôtre. Jésus lui dit, quand il le rencontre pour la première fois, « Tu es Simon, c'est son présent. Le fils de Jonas, c'est son passé, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre, c'est son avenir. Le Seigneur connaît tout de notre passé, de notre présent, de notre avenir. Et c'est à son contact qu'on apprend à se connaître. Et l'apôtre Pierre a appris à se connaître en étant avec Jésus. Mais nous dirons aussi avec Pascal qu'il n'existe pas de connaissance réelle de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Il n'existe donc pas de connaissance de soi en dehors de Jésus-Christ, mais il n'existe pas de connaissance réelle de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et ce qui m'afflige, c'est de penser qu'il y a dans la jeunesse un réel besoin de connaître Dieu. Mais où vont nos jeunes aujourd'hui pour chercher à connaître Dieu? Ils s'en vont en Orient. Ils s'en vont aux Indes pour y découvrir ce Dieu dont ils ont besoin. Autrefois, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des mages, des grands seigneurs, des savants qui venaient d'où? De l'Orient. On va rappeler toutes ces choses aux environs de Noël. Hein. Ils venaient de l'Orient pour découvrir la lumière et la vérité dans cette bourgade de Bethléem. Aujourd'hui, il y a des besoins dans la jeunesse. Il y a le besoin de trouver Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le trouve pas aujourd'hui dans nos pays comme on devrait pouvoir le trouver? Parce qu'il n'est pas rendu visible en ceux qui se réclament de son nom. Son nom, c'est beaucoup plus facile de l'épingler sur sa voiture. Mettre un verset biblique sur sa voiture, puis j'évangélise comme ça. Jésus, t'aime tel que tu es. On met cette plaque devant pour remplacer la plaque qu'on nous a enlevée maintenant. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir une plaque devant son automobile. Alors, on met le nom de Jésus. Et d'autres textes qu'on colle un peu partout, ou des versets que l'on met dans nos demeures, puis les gens entrent dans nos demeures, puis ils lisent ces textes qui devraient dire quelque chose, puis ils réfléchissent, puis ils pensent, puis ils nous regardent, puis ils se disent, au fond, qu'est-ce qu'ils en vivent de ce qu'ils disent? Puis on parle beaucoup de la Bible, mais au fond, qu'est-ce que nous vivons de cette Bible? Est-ce que nous savons ce que Dieu veut de nous? Est-ce que nous connaissons son dessein pour nous? Est-ce que nous vivons selon son plan? Est-ce qu'avant de continuer peut-être notre profession, est-ce que nous nous sommes demandé, est-ce que vraiment c'est cela que Dieu voulait pour moi? Parce qu'on a choisi peut-être notre profession. Mais quand il y a une conversion réelle au Seigneur, savez-vous que ça peut aller jusqu'à un changement de profession? Parce que tout à coup, on arrive à penser, mais je ne peux pas glorifier Dieu dans cette affaire-là. Et ça bouscule, ça bouleverse. C'est pas simplement dire, moi je prends la décision que je suis pour Jésus-Christ. Parce que je pourrais très bien faire lever des mains dans un meeting communiste et présenter Jésus comme le premier des communistes. Et je sais que je serais applaudi. Parce qu'il y a une façon de présenter un certain Jésus, premier des socialistes, premier des communistes. Et vous pouvez le faire acclamer. Vous pouvez le faire lever tout un auditoire. Mais Jésus, fils du Père, Jésus qui révèle la volonté du Père, et que cette volonté est celle que lui a accomplie. Et vous savez comment il l'a accomplie, cette volonté? Avec de la sueur qui est devenue sanglante. C'est jusque-là que la volonté de Dieu peut nous conduire. Car quand Jésus dit à ses disciples, vous avez de faux problèmes quand vous me demandez, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras ton royaume? C'est pas votre problème, ça. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Or, aujourd'hui, vous voyez une foule de gens qui veulent vous prédire les temps et les saisons. Au nom de l'écriture, même. Alors, il s'écrit un tas de bouquins, et puis, plus vous les lisez, plus vous êtes confus. Parce qu'il y a des idées tout à fait contradictoires. Et le drame, c'est que, à force de lire toute cette littérature, vous ne lisez plus la parole. Et puis, quand les choses ne se passent pas comme vous les aviez lues dans certains bouquins, vous commencez à douter de quoi? De la Bible. Mais ce n'est pas la Bible qui a dit ça. C'est des hommes qui ont voulu commenter l'Écriture sainte et qui n'ont pas toujours été les interprètes autorisés du Seigneur. Alors, voilà pourquoi nous insistons tellement pour que vous ayez personnellement une connaissance de la Bible qui va vous mettre en contact avec le vrai Dieu. Et que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de connaissance vraiment complète, là je reprends la pensée de Pascal, il n'y a pas de connaissance réelle et complète de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et il s'appuyait sur quoi pour dire cela? Sur l'évangile de Jean, où Jean, l'apôtre dont nous venons de lire l'épître, disait dans son évangile, personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Verset 18 du chapitre 1er de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, oui, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Donc, pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Et cette ignorance coupable qui est la nôtre concernant ce que Dieu est et quel est son dessein, sa volonté suprême, son intention à notre égard, cette ignorance est à l'origine de tous nos faux pas. Dans notre vie personnelle, disions-nous, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale aussi, et dans notre vie ecclésiale. Et je voudrais seulement, j'arriverai bien à notre épître de Jean, ne vous en faites pas, hein, pour ceux qui voudraient ça d'abord. Mais je voudrais seulement vous faire remarquer un peu ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ce monde. La majorité des hommes sont désorientés. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont malheureux. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans le stress. Ils pensent au suicide. Dans mon voyage, j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont posé la question, est-ce que je ne ferais pas mieux de me supprimer? Et c'était pourtant des chrétiens, des jolis chrétiens, mais qui se trouvent dans de telles situations qu'ils se demandent s'il ne faudrait pas mieux en finir. Maintenant, quand on pense aux familles, regardez ce qui se passe dans les familles en 1986. Les familles sont de plus en plus unies? Non. Elles sont de plus en plus désunies. Il suffit qu'un père meure pour qu'on voit les enfants se dresser les uns contre les autres pour ce fameux héritage. C'est quelque chose d'épouvantable. Et on prend la scène ensemble. Et on ne s'aime pas. On se jalouse. On a plein de pensées mauvaises à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Parce que c'est ce maudit héritage qui est là, qui empoisonne. Et puis, des fois, c'est pas même une grosse somme d'argent, c'est un objet. C'est ma sœur qui l'a eu, cet objet. Puis je vois, quand je m'en vais lui faire une visite, c'est elle qui l'a. Et c'est pas à nous. Et les enfants et les parents, bien, ils ne se comprennent plus. Je ne veux pas généraliser, il y a encore des enfants et des parents qui s'entendent. Mais bien souvent, vous voyez ce conflit, ce qu'on appelle le conflit des générations. Les parents et les enfants, ça ne se comprend plus. Les parents même démissionnent, ils n'aiment pas même rencontrer leurs enfants, ils préfèrent s'en débarrasser en leur donnant encore un peu d'argent. Les couples, eh bien, ils divorcent après quelques années d'union. Et comme ça se généralise, eh bien, il vaut mieux ne pas se marier. Alors, on cohabite. Comme ça, quand on voudra se séparer, on aura peut-être moins de difficultés. On parle de famille monoparentale. C'est un beau mot, hein, les familles monoparentales. J'ai beaucoup de sympathie pour ces familles-là, c'est vrai. Mais je vous les décris simplement, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui devient presque naturel. Puis avant, on parlait d'orphelins. Il y avait des orphelins. Mais maintenant, il y a des enfants qui ont deux pères, deux mères, si ce n'est trois ou quatre. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la famille? Et ils sont tirés d'un côté et d'un autre parce qu'il y a les visites. Alors il y a deux pères. Lequel est-ce qu'on aimera le plus? Puis je ne parlerai pas du reste de ce qui se passe, la dénatalité, l'avortement et tant d'autres choses. La vie familiale, qui devrait être la cellule de la société, elle est en train de se détruire. Maintenant, dans la vie sociale, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est l'injustice. Il n'y a qu'à voir les mouvements des syndicats. Je ne prends pas parti ni pour les uns ni pour les autres. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment des injustices. Qu'il n'y a pas d'égalité. Même en France, c'est la plus belle des devises. J'étais là le 11 novembre, le jour de l'armistice en France. Et vous savez, là, il y a des grandes manifestations politiques et patriotiques. Et alors, on parle de la grande devise française. Il y a des belles devises dans certains pays. La nôtre en Suisse, elle est aussi merveilleuse. Un pour tous, tous pour un. Un jour, on m'a demandé de faire un discours dans une manifestation politique. C'était le 1er août, notre fête nationale. Et comme j'étais aumônier, à ce moment-là, on m'a chargé de faire le discours. Ben, je n'avais jamais fait un discours de ce genre. Mais j'ai pris notre devise. Un pour tous, et puis cher pour tous. C'est Jésus. Et puis tous pour un, et c'est encore Jésus. Et ils ont pu l'entendre quand même. Mais nous partons d'une devise. Un pour tous, tous pour un. C'est merveilleux, mon père, quand ils ont choisi ça. C'est quand même des croyants, ça je le crois. Quand on commence notre acte de la Confédération, au nom de Dieu, amen, hein, on commence ainsi en 1291, à la naissance de la Confédération suisse. Mais ce n'est pas pour vous vanter les Suisses, au-dessus de tout soupçon, car le climat que j'ai connu en Suisse, c'était un climat de déprime épouvantable. Mais le président de la Confédération s'est humilié publiquement à la télévision. De quoi? Ben de ce qu'avaient fait les grandes sociétés pharmaceutiques suisses de Bâle, qui avaient laissé passer leur poison dans le rein, de telle manière que tous les poissons avaient crevé jusqu'en Hollande. C'est beau. Eh bien, le président de la Confédération, il ne s'est pas excusé. Il n'a pas trouvé des excuses. Il a dit, je demande pardon, il a reconnu que c'était vrai et que nous allions payer. Qui peut être payé? On a dit, ben, peut-être que Reagan ou Gorbatchev, ils auraient trouvé des excuses. Ou ils se seraient justifiés. Ça, je n'en sais rien. Parce qu'on veut toujours se justifier. On n'a jamais tort. Et bien moi, ça m'a quand même donné encore un espoir pour mes pauvres fils en me disant, si le président de la Confédération reconnaît publiquement que nous sommes coupables, il y a vraiment possibilité d'espérance. Parce que celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. Mais celui qui les cache il s'endurcit et il est mis de côté. Souvenez-vous du pharaon. Alors, la devise française, vous la connaissez? Égalité? Non. Liberté. Vous trouvez qu'il y a de la liberté? L'égalité? Nous la voyons-nous? Et la fraternité? Ben, de moins en moins. Et pourtant, qu'est-ce qui pourrait donner la liberté? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. De ce qu'on peut parler dans un discours, même le 11 novembre, en partant de cette devise française. La liberté, c'est Jésus qui la donne. L'homme se croit libre, mais il ne l'est pas réellement. Il est esclave. L'égalité, c'est lui qui la donne. Regardez ce qui s'est passé à ce qu'on appelle Noël. Les pauvres bergers de la terre ont été élevés jusqu'à lui, et les riches de l'Orient se sont abaissés à ses pieds. Alors, pauvres et riches étaient sur le même pied. Voilà ce que Jésus fait, même quand il est enfant. Il amène l'égalité. Les riches apportent leurs offrandes. Les pauvres sont élevés jusqu'au Christ. Et puis la fraternité, pour être frère, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un même père. Or, c'est clair qu'il n'y a que Jésus qui nous fait connaître le Père. C'est ce que Pascal avait déjà bien compris. Le le Père n'est connu que par le Fils. Alors, dans notre vie sociale, évidemment, c'est l'injustice, c'est la violence, c'est la corruption, c'est la lutte des classes, c'est le capitalisme d'un côté, c'est le communisme de l'autre, et ce sont ces tensions mondiales. Qu'est-ce qui va triompher? Est-ce que c'est le communisme? Est-ce que c'est le capitalisme? La lutte pour s'emparer du pouvoir, pour avoir l'hégémonie mondiale, parce que on est dans un temps où on voit les choses d'une façon mondiale. Alors, vous voyez, dans certains pays, un temps d'anarchie, puis après le temps d'anarchie, qu'est-ce qu'il y a? Le totalitarisme, la dictature, parce que l'anarchie, ben, ça peut aller un moment, mais personne ne peut se satisfaire de l'anarchie. Alors, tout sauf l'anarchie, et qu'est-ce qui arrive? La dictature, le totalitarisme, c'est ce qu'on a vu dans les années passées, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays. Et dans la vie ecclésiale, alors j'ai parlé de la vie personnelle, de la vie familiale, de la vie sociale, et maintenant, dans la vie ecclésiale, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle l'Église. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la confusion, c'est la division. Des églises qui sont en lutte souvent les unes contre les autres, et que, quand je dis église, je n'accepte aucune assemblée, mais c'est la division. Ce qu'on peut trouver dans toutes ces églises, dans l'une ou dans l'autre, c'est du formalisme. Et le formalisme nous guette tous. Et c'est de l'hypocrisie. C'est l'esprit sectaire. C'est-à-dire, on insiste sur une vérité biblique, mais on la sort de son contexte, on en fait un centre, c'est ça la secte. Et puis, vous avez aussi le triomphalisme, qu'on a tant reproché à l'Église romaine, autrefois, son triomphalisme, hors de Rome, pas de salut, tandis que maintenant c'est hors de notre milieu, de notre Église, pas de salut. C'est nous qui sommes dans la vérité, il n'y en a pas comme nous. S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, disent les Vaudois. Les Vaudois, c'est un canton de notre Suisse. Mais c'est pas l'unité, c'est pas la compréhension. Quand on se rencontre avec quelqu'un d'une autre église, au lieu de parler de ce qui devrait être essentiel, qui est le chef d'église, c'est Jésus-Christ. Au lieu de présenter la personne de Jésus-Christ, on parle de religion. On parle des coutumes, on parle des doctrines qui se trouvent surtout en épingle dans telle église. Ainsi, si vous voulez couper complètement la discussion avec quelqu'un que vous vouliez atteindre, disons qu'il est de l'Église romaine, vous commencez automatiquement de lui taper sur Marie. Alors vous commencez bien, n'est-ce pas? Pour ses frères, c'est comme si vous disiez du mal de leur mère. Vous avez le droit de critiquer votre mère, hein. Vous permettez de critiquer votre mère. Mais quand quelqu'un d'autre vient critiquer votre mère, vous prenez sa défense. Automatiquement, c'est normal. C'est une réaction qui est naturelle, ça. Moi, je peux me plaindre un petit peu de ma mère, peut-être. Mais j'accepte pas que les autres disent du mal de ma mère. Mais de toute façon, moi, je dis que bien souvent, nous sommes tout à fait à côté du sujet, et que nous aurions besoin d'être visités par un ange. Je vous ai parlé des anges, hein, je vous en dirai encore deux mots ce soir. Parce qu'on est souvent des Joseph. On ne veut pas prendre Marie chez nous.
n'est-ce pas?
Et il faut qu'un ange vienne lui dire, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car ce qui a été conçu en elle vient de Saint-Esprit.
Donc c'est grand ça. C'est pas n'importe quelle femme, Marie. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont conçu leur enfant du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y en a? Toutes les mères célibataires? On connaît pas le Père? Alors, faisons un peu attention. Je vous dis, mes frères et sœurs, que nous devrions être visités par un ange qui nous remette au point sur cette question de Marie. Parce que nous avons manqué là. Ça, c'est certain. Et je ne suis pas mariolâtre. Mais je dis que c'est une femme qui était choisie par Dieu. Et je dis avec l'Écriture que toutes les générations la disent bienheureuse. Et pas notre génération à nous. C'est pas parce qu'elle a eu des exagérations, c'est pas parce qu'on lui a donné une place qu'elle n'a jamais voulu, elle, que les hommes lui ont donné. C'est pas à cause de cela qu'on doit avoir un mépris pour la mère de notre Seigneur. Mais vous vous rendez compte qu'elle est la mère de notre Seigneur? Et s'il est une femme dont je puis recevoir des instructions, c'est bien cette femme-là qui est tellement remplie de l'Écriture sainte qu'elle peut discerner quand elle est visitée par un ange que ce n'est pas l'ange de lumière, mais que c'est la parole divine qui lui est annoncée alors qu'elle est fiancée à un certain Joseph, qu'elle deviendra mère de qui? Du Seigneur, mère, du Fils de Dieu. Alors, c'est quand même quelque chose. Quand Noé a été choisi pour échapper au déluge, qu'est-ce qu'il a dit dans le contexte? Dieu dit qu'il va faire périr toute chair. Hein? Parce que toute chair avait corrompu sa voix. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était un homme juste, droit, parmi ceux de son temps. Il était parfait parmi ceux de son temps. Alors ne me dites pas que Marie était n'importe quelle femme. Ce n'est pas vrai. C'était une jeune fille qui était vierge. Et j'ai osé dire cela au stade olympique, en 1979. Si un ange venait à Montréal, vers quelle jeune fille pourrait-il aller pour la trouver vierge? Je dis devant tout le monde. On a dit qu'il y avait 40 000 personnes dans ce congrès charismatique. Eh bien oui, vous savez, ça fait frissonner. Alors, ayez une autre pensée au sujet de Marie. Et si vous voulez évangéliser ou apporter quelque chose de plus à ceux que vous dites être des païens, une chose abominable, que je ne voudrais plus entendre sur vos lèvres, de traiter les catholiques de païens. Le païen, c'est peut-être moi. Chaque fois que vous, vous dites dans le milieu aussi évangélique que vous adorez quelque chose. Parce que ça se dit, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Hein? Vous aimez quelque chose, beaucoup, puis vous dites, ça vous sort de vos lèvres, hein? J'adore. Ben vous êtes païen, alors. Vous adorez un objet. Voyez-vous, au lieu de voir toujours la poutre qui est dans l'œil de son frère, qu'est-ce qu'il nous faut voir? Non. La paille, aidez-moi. Venez à mon secours. Il y a une paille dans l'œil. Puis moi, je ne vois pas que j'ai une. Je m'en vais chez un ophtalmologue qui a une poutre dans l'œil, qui veut m'enlever la paille qui est dans l'œil. Je ne choisis pas cet ophtalmologue-là. Maintenant, il y a une seconde chose que je dirais au sujet de Marie.
Et ça, alors, je l'ai vécu à Jérusalem même, sur le mont Golgotha. Quand je rappelais à un groupe que j'avais conduit là, les sept paroles du Christ sur la croix, quand il voit sa mère et Jean, qu'est-ce que le Seigneur dit du haut de la croix? Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Et depuis ce jour-là, Jean l'a pris chez lui. Puis moi, j'ai entendu dans mon cœur, est-ce que toi, tu l'as pris chez toi? Est-ce que vous l'avez pris chez vous? Est-ce que nous l'avons pris chez nous? Et lui, il l'a pris chez lui. Et c'est pourquoi Jean est inimitable. Il peut vous parler du Seigneur d'une façon extraordinaire, parce que il a eu Marie chez lui. Et qu'est-ce qu'on fait des 30 ans d'obscurité où a vécu le Seigneur? Nous, on n'en sait rien. Hein? Mais je pense que quand on avait Marie avec soi, on apprenait bien des choses, puisqu'il est dit que Marie repassait dans son cœur toutes les choses qu'elle entendait dire de lui. C'était une femme qui était remplie de la parole, du reste même quand elle était jeune fille. Parce que quand elle est allée trouver Élisabeth, eh bien, qu'est-ce qui a jailli de son cœur? Oh non, vous me direz qu'elle a demandé à Élisabeth une plume, puis elle lui a dit, est-ce que je peux rester quelques jours pour composer le Magnificat? Hein? Je vais réfléchir. Et puis, je vais écrire une belle poésie. Et c'est ça le Magnificat? Non, c'est une source jaillissante qui sort de son cœur. Quand elle est impressionnée par la salutation d'Élisabeth qui répond à son salut, et Élisabeth lui dit son étonnement, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur me visite en quelque sorte, hein? Eh bien, quand elle entend que l'enfant d'Élisabeth a tressailli dans son sein à la salutation de Marie, elle explose, elle aussi, quand elle entend « Il y aura un accomplissement des paroles qui t'ont été dites par le Seigneur hein, ». C'est Élisabeth qui, remplie du Saint-Esprit, dit à Marie, qui est toute jeune, une femme âgée qui rencontre sa cousine qui n'est qu'une jeune fille. Et la femme âgée et qui dit à Marie, il y aura un accomplissement. Il y aura un accomplissement des choses qui ont été dites par le Seigneur. Alors, elle prononce ce magnifique à mon âme. Bénis le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Puis, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? La servante du Seigneur. Comme elle l'a dit déjà, alors, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est l'exemple, pour moi, des exemples, en dehors de Jésus-Christ. Elle est la femme qui me montre que je dois me laisser faire par le Seigneur, que servir, ce n'est pas faire des choses pour Jésus ou pour Dieu, c'est se laisser faire par lui. Et elle a couru un risque, hein. C'est que on n'allait pas la croire. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y en a qui nient la conception miraculeuse. Puis je vous dirai encore que vous la retrouvez donc au pied de la croix, Marie. Mais vous la retrouvez aussi où? Au Cénacle. Elle a vécu quoi? La Pentecôte. Ne vous figurez pas que Marie était hors du cercle. Elle était bien dans le cercle, au Cénacle, avec les frères de Jésus, qui autrefois ne croyaient pas en lui, mais qui s'étaient convertis. Alors, ayez au moins cet arrière-plan. Et ne commencez pas à bavarder au sujet de Marie. C'est pas ça qu'il faut mettre en avant d'abord. Parce qu'on creuse automatiquement le fossé sont les choses d'abord qui peuvent nous unir, les choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Ayons de la compassion à l'égard de celles sur lesquelles nous avons encore un autre sentiment et prions pour que Dieu éclaire, nous éclaire nous-mêmes et éclaire aussi les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, ce que nous trouvons, c'est aussi la tiédeur, le mensonge, le cléricalisme, ou bien alors l'anarchie dans le sacerdoce. Et c'est une des plaies de nos milieux évangéliques, parce qu'on pense que tout le monde a la parole. C'est le sacerdoce universel qu'on prétend avoir. Alors n'importe qui peut se lever et jaser du Seigneur dans un culte, ou raconter une histoire, ou indiquer n'importe quel cantique, parce qu'on est libre, c'est la liberté de l'esprit. Et on stérilise un culte. C'est pas l'anarchie dans le sacerdoce. Il y a de l'ordre. Parce que si on condamne le cléricalisme, il faut pas non plus tomber dans l'autre excès. Donc, quand vous voyez l'état de l'Église, on n'est pas glorieux. Jésus a fondé une Église. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Il n'y a pas une Église unie en face d'Église qui serait divisée. Il y a une Église qui a perdu son unité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une Église qui a perdu son unité visible. À cause de quoi? À cause de nos infidélités aux uns et aux autres. Et nous devons donc souffrir. Et je connais dans tous les milieux des hommes qui sont vraiment des hommes de Dieu, et bien ces hommes-là, ils souffrent de ces divisions. Et ils s'ennuient. Et ils pleurent. Ils ne se glorifient pas en disant « C'est nous qui sommes dans la vérité ». Et qu'ils reconnaissent bien que s'il devait y avoir une unité visible, ce n'est que le Seigneur qui pourrait amener un tel changement. Mais pour cela, il faudrait que chacun renonce à soi-même, à ses intérêts, à peut-être sa personnalité, pour qu'il n'y ait plus que la personnalité de Christ. Qu'est-ce qui devrait caractériser chaque membre d'une communauté? C'est quel fruit? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que vous trouvez énuméré dans Galates au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. C'est cela, l'ensemble de toutes les grâces qui donne aux croyants cette personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît le Christ. Il est dit que quand on regarde vers lui, on est comme illuminé, on est rayonnant de joie, ceux qui ont regardé vers lui. Et voyez-vous, c'est ces âmes-là que vous devez être heureuse de rencontrer et avec lesquelles vous pouvez peut-être échanger quelques paroles et qui seront édifiantes. Pensez toujours que vous-même, vous pouvez recevoir quelques grâces d'un autre. Ne pensez pas que c'est vous-même qui allez apporter la grâce à quelqu'un d'autre. Plus à Dieu que vous puissiez apporter une grâce à quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul s'est rendu à Rome en ayant cette assurance. Il dit, je sais que si je vais à vous, j'irai dans la plénitude de la bénédiction du Christ. Quand on va dans une maison, on devrait pouvoir y aller dans la plénitude de la bénédiction du Christ. Combien sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, de ceux qui apportent la paix. et pouvoir se séparer, même si on a eu peut-être des pensées divergentes, même si on n'arrive pas à toutes les solutions, eh bien, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, nous pouvons nous agenouiller et rendre grâce au Seigneur et demander qu'il nous éclaire pour la suite et qu'il nous montre le chemin. Alors, on se quitte, non pas avec aigreur, mais en étant reconnaissant au Seigneur pour les moments que nous avons passés ensemble et qui nous ont rafraîchis. Alors, nous arrivons maintenant vers l'an 2000, et alors on nous parle, évidemment, en voyant tout ce qui se passe, on nous parle déjà de l'Église de demain. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? L'Église d'après l'an 2000. Et certains nous font des suggestions formidables pour préparer ce troisième millénaire de la naissance du Christ, dont on nous dit que les pas sur la route du temps sont déjà faciles à discerner. Car pour certains, c'est à nous, les hommes de bonne volonté, d'établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est une doctrine qui est très courante, ça. C'est à nous, les hommes de bonne volonté, d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Ben, il y a 2000 ans qu'on essaye, hein. Puis, vous trouvez que ça approche, d'après ce que nous venons de voir. Il faut être vraiment optimiste. Alors, on nous dit, mais il faut une longue marche. Vous voyez, il y avait Mao. Mao Tse-Tung, il a parlé de la longue marche. Hein. Alors, nous aussi, nous allons faire une longue marche. Puis, après des siècles d'efforts, ben, la parousie va avoir lieu. Qu'est-ce que c'est, la parousie? C'est le retour du Seigneur. C'est nous qui allons préparer le retour du Seigneur par nos efforts. Alors, nous allons y travailler de tout notre cœur et le Seigneur pourra revenir, l'Église chrétienne ayant achevé son œuvre, le levain, dit-on, qui serait l'Évangile, ayant fait lever toute la pâte humaine. Hein. Alors, il reste un grand pain, le monde est devenu un grand pain. Et alors, le Seigneur pourra venir, parce qu'il viendra manger son pain. Je croyais que c'était lui qui était le pain, un de vie. Hein. Alors l'homme apporterait enfin à Christ la récompense de son œuvre à la croix. Alors vous voyez deux courants qui se manifestent. L'un qui pousse les âmes alors à vivre dans la nostalgie de l'Église primitive. On voudrait revenir en arrière. Hein. Revenir à l'Église primitive. Et puis, l'autre courant, c'est le courant qui nous pousse à nous évader dans l'utopie, dans le rêve d'une Église future, idéale, qui serait pleinement assimilée au monde entier, au monde amélioré, au monde transformé. L'Église convertie au monde. Il y a ces deux courants. Eh bien, ce qui manque, vous savez ce que c'est? C'est des hommes, et quand je dis des hommes, je comprends les femmes, c'est des hommes et des femmes voulant vivre pleinement, non pas l'Église d'hier, parce qu'on ne peut pas, ni l'Église de demain, mais l'Église d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'Église d'aujourd'hui qui compte pour nous. C'est dans l'aujourd'hui de Dieu qu'est le mot du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit que nous prétendons avoir reçu, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut manifester aujourd'hui? Et pour qu'il se manifeste dans une communauté, dans une assemblée, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il puisse faire d'abord? Se manifester dans chacune de nos vies. La communauté en général dépend de ce que sont les individus en particulier. Et c'est cela que nous devons bien comprendre. C'est pourquoi Renan avait raison de dire qu'au fond, le problème, qu'est-ce que c'était? C'était l'homme. Le problème, c'est pas les églises. Le problème, c'est Non. Le problème, peut-être, c'est moi. Alors, comment est-ce que nous pouvons vraiment vivre pleinement l'Église d'aujourd'hui, l'Église aujourd'hui de Dieu? Bien, c'est cela que j'avais à cœur de vous parler, c'est de cela. Alors, il s'agit d'abord d'étudier si le problème que nous considérons est vrai. Est-ce que le problème, est-ce que c'est un problème de l'heure? Est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Je voudrais que tu fusses au froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Donc, c'est quand même urgent. Aie du zèle et repens-toi. Alors, si c'est vraiment le vrai problème, ben, cela va nous éviter tous les faux problèmes pour nous attacher à ce qui est essentiel pour nous en ce moment. Ce n'est pas nous qui allons changer la situation. C'est Dieu qui a un dessein, mais qui voudrait nous trouver, nous autres, à quelque milieu que nous appartenons, disponibles pour être dans le milieu où nous sommes, ce que lui désire. Comprenez-vous? Ce que lui désire. Parce que lui, il aime le monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Et toutes les congrégations sont dans le monde. Donc, il aime aussi tous ceux qui sont dans toutes ces congrégations. Et nous, nous avons à avoir un amour semblable pour ceux qui sont dans d'autres milieux que les membres. Aimez-vous les orthodoxes? Je ne connais pas. Alors, bon. Vous ne connaissez pas. Il faudrait peut-être apprendre à les connaître. Parce que pour s'aimer, disait un certain grand monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect, pour s'aimer, il faut se connaître. Et pour se connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers l'autre. Il faut faire peut-être le premier pas. Parce qu'on a des préjugés. On ne se connaît pas. Il est mort il y a 60 ans, cet homme qui disait cela. Il habitait la Belgique. Pour s'aimer, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut aller vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour nous de connaître? Et ensuite, nous allons chercher encore, dans les quelques heures qui vont nous rester, à connaître les règles qui vont nous servir à trouver la solution qui nous préoccupe, parce que nous désirons vivre le plan de Dieu. Enfin, ayant trouvé cette solution, nous chercherons à vivre selon les résultats obtenus. Puisqu'on a dit que quand il est question d'un problème, il est aussi question de solution. Il est aussi question de résultat. Alors, mes amis, pour quelle raison, après 20 siècles de christianisme, l'humanité se débat-elle dans les mêmes problèmes? Elle se pose toujours les mêmes questions. Nous le disions hier, hein, c'est comme si Jésus n'était pas venu. Hein? Et comme s'il n'avait pas donné au monde des réponses qui sont absolues et définitives. Il nous a montré le chemin, il nous a dit ce qu'était la vérité, c'est lui-même, et il nous a dit aussi ce qu'était la vie. Et c'est lui qui est la vie. Alors, cela nous amène à notre fameux épître de Jean. Mais vous voudriez peut-être changer de position un instant. Vous levez. C'est très intéressant dans cet épître de Jean, et vous verrez que nous ne sortons pas du sujet, c'est que au temps de Jean, c'est-à-dire quand il a écrit son épître, à la fin du premier siècle, vous avez peut-être lu le petit commentaire dans la petite lettre de Jean. Il est dit que de nombreux groupements religieux existaient côte à côte, chacun avec sa propre spiritualité, donc le monde n'a pas beaucoup changé. Et très vite, les premières communautés chrétiennes durent se différencier de plusieurs d'entre eux. Et voilà. Et ça, c'est tout à fait vrai. Quand Jean a écrit sa première lettre, là, les communautés chrétiennes qui avaient manifesté une certaine unité au début du christianisme, donc après la Pentecôte, eh bien, connaissaient toute espèce de division, il y avait toute espèce de tendance, tous les courants théologiques, et ce qu'on appelait en particulier la gnose, et on prétendait qu'on avait découvert des vérités qui allaient beaucoup plus loin que le christianisme, au fond comme aujourd'hui. Le christianisme, oui, c'est une bonne chose, mais enfin, il avait fait son temps, on avait d'autres lumières. Alors, comment Jean s'y prenait-il pour écrire à ces gens-là? Je trouve que c'est vraiment merveilleux de lire l'épître de Jean. On a dit, et je suis pleinement d'accord, qu'il n'y a pas d'écrit inspiré aussi intime que cet épître, à l'exception de quel livre? Vous, du camp Mahanaïm? Le Cantique des Cantiques. Dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de Jean qui peut nous faire penser peut-être le plus au Cantique des Cantiques, quant aux expressions qui sont tellement touchantes. Il parle de ses petits-enfants qui se trouvent dans le monde. Et il nous donne toutes sortes de réponses. Alors, nous repassons brièvement. Au fond, qu'est-ce que fait Jean? Il ramène tout le monde à qui? À Jésus. À ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Ce que Jésus était dès le commencement de son ministère. Ce qu'il leur a révélé. Sa première révélation à Jean en particulier et à André, c'était quand ils lui ont demandé « Où demeures-tu ? » Venez et voyez, et il les a conduits certainement dans le sein du Père. On a dit aussi que si l'évangile de Jean nous présente la maison du Père, c'est vrai, hein, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, eh bien, dans cette épître, qu'est-ce qu'on y trouve? La vie dans la maison du Père. L'intimité de la maison du Père. Et c'est vrai. Alors, celui qui doit occuper nos pensées, c'est le Seigneur. Et il en parle, Jean, parce qu'il l'a vu. Alors, vous avez bien compris. Ce que nous avons entendu, qu'est-ce qu'on a entendu? Ils ont entendu la voix du Seigneur. Ils ont entendu ses paroles. Ce que nous avons vu de nos yeux, ils ont vu sa personne. Ils l'ont vu dans tous ses aspects comme homme. Ils l'ont vu fatigué, ils l'ont vu pleurer. Mais ils l'ont vu aussi rayonnant de joie, faisant éclater sa joie devant son Père. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ils ont vu ce visage qui se levait vers le ciel et qui était tellement heureux de voir que des hommes étaient conscients de la présence divine. Oui, ils l'avaient contemplé. Et où, peut-être, Jean l'a-t-il le plus contemplé, lui, qui n'était pas loin de là, ce que nous avons contemplé. Il a contemplé Jésus sur la croix. Il était là avec Marie, sa mère, tout près de la croix. Jean et Marie ont contemplé Jésus souffrant sur la croix. Puis, ce que nos mains ont touché, qu'est-ce qu'ils ont touché? Oui, mais un Jésus, quand? Oui, ça dépouille, mais ensuite, ressuscité, ils l'ont touché, le vivant. Alors, il parle de choses qui sont absolument concrètes. Nous l'avons entendu, donc nous connaissons sa voix. Nous l'avons vu de nos yeux, dans sa course terrestre, depuis le Jourdain jusqu'à la croix. Et puis, nous l'avons contemplé là sur la croix, comme aussi dans tout son ministère, mais ce que nos mains ont touché. Nous l'avons touché, ressuscité. Il n'y a pas eu seulement Thomas qui l'a touché, mais les disciples l'ont touché. Il a dit, touchez-moi. Concernant la parole de vie, il appelle Jésus la parole de vie. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'une parole de vie. Jésus disait, les paroles que moi je vous dis sont esprit et sont vie. Eh bien oui, eh bien ce sont ces paroles. Et la vie a été manifestée. Qui c'est la vie? C'est Jésus. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Elle a été manifestée. Nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? C'est Jésus. Cette vie éternelle était auprès du Père, elle nous a été manifestée. Il était la vie éternelle, qui était auprès du Père. Comme on le voit dans le prologue de Saint Jean, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair, hein, elle a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. C'est pas des fables, hein. C'est quelque chose de réel, la réalité plénière. Nous vous l'annonçons à vous aussi, nous qui l'avons pas vu, mais qui sommes des bienheureux, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ce que ce soir nous voulons croire, c'est là notre problème peut-être, hein. Et ce que ce soir nous voulons croire, parce que pas demain qu'il faudra croire, hein. Parce que demain, il n'y aura plus besoin de croire, ce sera là. Ce sera l'évidence. Il est question de foi quand on ne voit pas. Eh bien, c'est ça la foi. C'est croire ce qu'on ne voit pas. C'est s'emparer des choses invisibles. J'ai devant moi des choses visibles, mais je les surmonte et je m'empare des choses invisibles. Et ce sont les choses invisibles qui sont pour moi les réalités. Parce que les choses visibles, qu'est-ce qui va leur arriver? Elles passent. Les choses visibles passent. Alors, ne vous attachez pas aux choses visibles. Attachez-vous aux choses invisibles. Comment Moïse pouvait-il marcher dans le désert avec une bande comme les Israélites l'étaient, hein? C'était uniquement en voyant celui qui était invisible. Il marchait comme voyant l'invisible. Sans ça, Moïse, il pouvait se pendre. C'était trop décevant d'être avec ce peuple qui murmurait sans cesse, qui lui disait tout le temps, pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? Et qui regrettait les poros, les oignons, là, qu'est-ce que vous voulez. Hein? C'est ça que nous sommes, nous autres. On a des délivrances merveilleuses, mais on regrette les oignons. Vous aimez les oignons? Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devrions avoir les mêmes joie, la même vie que, c'est bien ce que Pierre dit, nous vous écrivons à vous qui avez reçu une foi du même prix que la nôtre. La foi que vous pouvez avoir aujourd'hui, elle a autant de prix que la foi de l'apôtre Pierre. C'est une foi qui a le même prix. Et l'apôtre Jean voudrait que nous ayons communion avec les premiers apôtres. Ceux qui ont connu les apôtres, nous pouvons aussi le connaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas parti sans nous laisser personne. Qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Si vous m'en voulez, je vous enverrai un autre consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Vous ne serez pas des orphelins, mais je viendrai à vous et cet Esprit sera en vous, pas seulement avec vous, mais en vous. Alors, notre communion, elle est avec qui? Rendez-vous compte, elle est avec le Père. Mais Dieu connu comme un Père. Et c'est si triste de penser que l'image du Père, en tout cas au Québec, pendant longtemps, on m'a dit qu'il ne fallait pas parler de Dieu comme un Père, parce qu'on avait un trop mauvais souvenir du Père. Et si on parlait de Dieu comme un Père, on n'aimait pas ça. Pourquoi? Parce que le Père, il avait le bâton. Puis la mère disait toujours à ses enfants, attends, ton papa viendra. Alors, on a vécu dans la terreur du père, comme si le père n'avait qu'un bâton. mais c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce Père-là, il faut le découvrir. Quand on apprend à le découvrir dans l'Ancien Testament déjà, on apprend qu'il a un cœur de mère, hein, comme je dis souvent. Un père au cœur de mère. Il le dit. Une mère oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles? Moi, je ne t'oublierai pas. Donc il est mieux qu'une mère. Elle dit comme quelqu'un que sa mère console ainsi je vous consolerai. Voilà le père que je connais. C'est un père qui a la sensibilité d'une mère. Et qui est aussi accessible que la mère. On dit toujours qu'il faut aller vers la mère d'abord, hein, pour qu'elle parle au père. Eh bien, vous pouvez trouver dans le père un cœur de mère, cette compréhension. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de problème, hein. Nous vous écrivons ces choses pour que votre joie soit parfaite, complète. Une joie parfaite. Est-ce que nous la voulons? Mais nous vous écrivons ces choses. Si je ne connais pas ces choses, je n'aurai pas cette joie. C'est une bonne nouvelle que j'apprends là. Ces choses sont écrites, pourquoi? Pour que je sois troublé. Est-ce que vous avez été troublé en lisant cette épître? Peut-être que ça vous a posé certaines questions. Mais peut-être qu'il faut nous poser certaines questions pour qu'on ait plus de joie. Une fois qu'on a la réponse. Parce que quand on a encore des doutes, on n'est pas vraiment heureux. Et ces choses ont été écrites pour qu'on n'ait pas de doutes. Maintenant, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Quelle est la nouvelle? Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. Alors, vous ne me ferez pas dire autre chose. Dieu est lumière. Si vous ne voulez pas de cela, ben c'est pourquoi? Parce que vos œuvres sont mauvaises. C'est dans Jean qui le dit ça. Hein. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors là, il faudrait peut-être confesser nos œuvres mauvaises et les abandonner. Puis dire non, je ne veux plus continuer avec ça. Je sais très bien que je me détruis. À moins que vous disiez tout. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir le sida? On doit quand même mourir de quelque chose. Alors, je mourrai du sida. Alors, je continue de vivre cette vie-là et d'empoisonner les autres. Non. Il faut que l'on rejette nos tendances, notre péché. Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune ténèbre. Donc, si je vis dans la lumière de Dieu, est-ce que j'aurai des problèmes? J'ai une solution, n'est-ce pas? Si on vit dans la lumière, il n'est pas question de problème. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire que nous avons tout en commun avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, est-ce que vous avez vu Jésus marcher dans les ténèbres? Il a toujours été dans la lumière. Et il le dit quand on l'arrête, hein, et quand on le questionne devant les tribunaux. Il le dit très, très simplement, mais vous m'interrogez, mais tout ce que j'ai dit, je l'ai dit publiquement. Vous avez pu m'entendre, je n'ai rien caché. Mais si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il faut nous laisser corriger par la parole. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Bien, nous sommes mutuellement en communion. Cette unité de l'esprit se manifeste. Nous sommes en communion. Si je suis transparent pour mon frère et qu'il est transparent pour moi, nous sommes en communion. Et alors, qu'est-ce qui arrive, justement, quand on marche dans la lumière? Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais justement, on se dit, mais si je marche dans la lumière, il n'y a pas de péché. Et justement, il y a du péché. Il y a du péché en nous. C'est ce que nous allons voir. Mais quand je marche dans la lumière, je sais que le sang me purifie. Je n'ai plus conscience de péché. Comprenez-vous? Parce que, immédiatement, quand je marche dans la lumière, je vois mon péché, si je suis dans la lumière, je vois mes tâches, et je m'en juge. Je confesse mes péchés. de sorte que le péché n'est plus un problème. Le péché est là, mais justement quand je marche dans la lumière, le péché ne domine pas. Le péché est enlevé. Le péché est soustrait. Si on a parlé de soustraction. Et il y en a des soustractions à faire. C'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil. Et si vous voulez reprendre ma petite image de soustraction, la nuit est fort avancée. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, ça c'est soustraire, hein. Et remettons les armes de la lumière, ça c'est additionné. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, soustraction, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bon, le péché étant manifesté, alors nous le confessons. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Parce que justement, l'apôtre Paul nous montre que le péché n'a plus à dominer sur nous, mais le péché est quand même en nous, quant à notre nature. Le péché est toujours en nous, mais il n'a plus à dominer sur nous. Et si je marche dans la lumière, le péché étant manifesté, il est condamné, de sorte que je suis sans conscience de péché. Parce que je suis à l'abri du sang de Jésus. Et c'est cela qui libère ma conscience. J'ai plus qu'une mauvaise conscience. Mais vous devez savoir que le péché, il est dans notre nature. C'est ce que Paul nous dit au chapitre 7 des Romains. Ce n'est plus... Comment ? Oui, alors il le dit, tous ont péché. Il n'y a pas d'exception. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Puis après, alors, bon, j'accepte que je suis un pécheur, hein, je reconnais que j'ai péché. Mais si nous confessons nos péchés, il y a le remède, il y a la solution. Quelle est la méthode pour en avoir fini? Confesser notre péché. Il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc c'est clair. Donc la question du péché ne devrait plus être notre grand problème. Or le problème de plusieurs, c'est toujours le péché. On ne finit pas avec le péché. Or on peut en finir avec le péché. Ça ne veut pas dire que le péché n'est pas en nous et que le péché ne peut pas se réveiller. Mais j'ai à vivre dans la lumière. Alors je suis en garde. Je sais très bien que je suis capable de tout, que je peux avoir des pensées mauvaises et qui peuvent me conduire à des actes. Parce que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et la parole de Dieu n'est pas en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'a pas péché? Nous manquons si facilement en parole ou en œuvre, hein, ne serait-ce qu'avec notre langue, dans une journée aussi, dans nos pensées, ou si on fait quelque chose sans conviction, pour celui qui agit sans conviction, pour lui, il pêche. Puis tous les péchés par omission, pour celui qui sait faire le bien et qui ne le sait pas, pour lui, c'est péché. Alors, on doit se juger, oui, c'est vrai, j'ai été paresseux là-dessus. Qu'est-ce qui se juge de sa paresse? Oh non, mais moi, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas paresseux. Et pourtant, ça pourrait arriver. Hein? Alors, je ne suis pas à ma place. Donc, la parole de Dieu nous montre clairement ce qui nous en passe. Vous voyez, il y a trois choses. Hein. Si nous disons que nous n'avons pas péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons Dieu menteur. La vérité, elle n'est pas en nous. Et puis, encore, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous les confessons, donc cette question du péché est réglée. Le péché ne dominera plus sur vous. Il est là, je le sais, mais il ne domine plus sur moi. Alors, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péché est point, donc il y a un remède. Si vous restez dans la communion avec le Seigneur, vous ne pécherez pas. Parce que quand je pêche, c'est que je ne suis plus en communion avec le Seigneur. Et alors, qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je reste en communion avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que je reste avec ma femme? Elle n'aime pas que je parle d'elle. Hein? Ben, il faut que je l'aime. Parce que si je n'aimais plus ma femme, ou si elle ne m'aimait plus, il y a longtemps qu'elle m'aurait abandonné. Vous croyez pas? Surtout que je suis souvent loin. Puis si elle n'avait pas confiance en moi, elle pourrait se penser toutes sortes de choses de moi. Voyez-vous, l'apôtre Jean, il nous présente le Christ. Et il nous le présente d'une façon extraordinaire. Et il nous dit qu'il faut revenir à celui qui était dès le commencement. Alors, quand je tourne mes yeux vers Jésus, et que je le contemple, mais pour ça, il faut que je lise les évangiles, que je vois comment lui agissait, alors, je vois son obéissance. Est-ce qu'il était obéissant, Jésus, à son Père? Fantastique, hein? Son obéissance totale. Il est dit qu'il a appris même l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Parce que pour lui, obéir, c'était quelque chose de nouveau, puisqu'il était Dieu. Mais en devenant homme, il a dû apprendre à obéir. Et il a appris à obéir quand il était petit, il était soumis à un Joseph et à une Marie. Quand je vois sa pureté, la pureté du Seigneur, il pouvait être en contact avec tous les gens les plus souillés et il restait pur, même avec les lépreux. Sa grâce, oh parlez-moi de sa grâce, la grâce du Seigneur qui brille dans ses traits. Sa tendresse, quand il prenait les petits-enfants dans ses bras. Sa patience avec ses disciples qui ne comprenaient rien, rien de rien. Son dévouement avec certaines personnes. Et puis sa sainteté, quand il disait, qui d'entre vous me convaincra de pécher? Et personne ne pouvait répondre. Son amour. Et sa complète dépréoccupation de soi-même. Est-ce que vous voyez un jour Jésus préoccupé de lui-même? Il ne pensait qu'aux autres. Il n'avait pas même le temps de manger. Eh bien, quand je vois cette vie-là, selon l'apôtre Paul, j'ai le droit de dire, voilà ma vie. Comprenez-vous? Vous trouverez vous. C'est pas celle que vous contemplez en vous, en vous examinant, en faisant de l'introspection. Parce que si vous en arrivez là à faire votre introspection, vous finirez au bout d'une corde. C'est-à-dire, vous aurez des idées de suicide. Parce que vous en aurez tellement marre de vous, vous ne pourrez plus vous supporter. Vous vous trouverez haïssable. Vous perdrez votre bonne opinion de vous-même. Qu'est-ce que je peux penser? Qu'est-ce que je peux dire? Mais c'est affreux, hein? Ben oui, ben c'est ça que je suis. Mais Dieu le sait, et il m'a donné un sauveur. Pour que je ne vive plus selon mes penchants, selon mes tendances. Et il m'a donné une puissance pour maintenir ma chair, qui serait toujours prête à pécher, qui ne s'améliore pas. Ne pensez pas un seul instant que depuis votre conversion, votre chair s'est améliorée. La chair reste la chair, hein. Et vous en avez la preuve avec un David qui a écrit les plus beaux psaumes et puis qui pour un moment où il se repose justement, il paraisse un peu là, et quand on a trop de temps, ben on regarde ce qu'on ne devrait pas avoir. Il n'avait pas de télévision lui. Et pourtant. Cette nuit-là, il est tombé. Puis un péché, hein, ça va toujours. C'est comme les champignons. Quand on trouve un champignon, il y en a plusieurs avec. Un péché, c'est pas tout seul. Il y en a plusieurs qui s'enchaînent. Quand on se laisse aller à un péché, il y en a d'autres qui suivent. Hein. Le mensonge et tant d'autres choses. Mais quand je vois la vie de Jésus, cette vie-là, j'ai le droit de dire, c'est lui qui est ma vie. Parce que c'est cette vie-là qu'il a eue, qu'il m'a donnée. La vie que vous avez contemplée dans toute sa perfection en Jésus, homme, vous pouvez dire « c'est ma vie ». C'est un peu le thème que nous avons traité dans la dernière fin de semaine biblique, vivre avec la vie d'un autre, vivre de la vie d'un autre. Alors, c'est une immense grâce. Et il est possible bien souvent que cette vie soit obscurcie en moi, mais il n'en est pas moins ma vie. Vous avez été rendu agréable dans le bien-aimé. C'est la parole qu'il dit.